Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission et on a beaucoup de bonnes pensées pour tous ceux qui sont encore ce matin un peu pris avec le transport en commun déficient, les trains de banlieue, les trains complètement bloqués sur certains tronçons. Ça va être notre premier sujet de discussion. Je veux toutefois vous dire qu'on aura également une histoire exclusive qui implique des travaux d'Hydro-Québec et l'abattage d'arbres d'ici une demi-heure. On aura également une entrevue sans filtre en deuxième partie d'émission. L'humoriste Rachid Badouri, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Rachid. Il va être bientôt en première montréalaise. On le reçoit entre autres pour l'occasion. Puis on va recevoir le docteur François Marquis, qui est chef interniste et qui est au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Il est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et on va parler des enjeux de l'aide médicale à mourir. Vous l'avez sans doute vu à la télévision, le docteur François Marquis est dans la magnifique série de garde 24-7 à Télé-Québec. Il est de ces médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous avez qui se rapportent à ça. On aura l'occasion de parler avec le docteur Marquis en deuxième heure d'émission. Mais je vous parlais des trains, puis du fait que le service, comme hier, hein, hier, on parlait beaucoup de la neige, du problème de déneigement, on parlait de tout ça, et de la température aussi qui gelait beaucoup la chaussée, qui rendait beaucoup d'endroits impraticables. Et encore ce matin, il y a le même problème qu'hier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de train sur la ligne EXO 4 Candiac. Il y a aussi tous les trains Montréal-Toronto, Ottawa qui sont touchés. Il y a la ligne Vaudreuil de Hudson hier qui a été perturbée. Il y a eu des trains annulés. Zéro rapport avec le conflit autochtone, toutefois, dont on nous parle depuis deux jours. Des fois, tu as l'impression que les Autochtones ont le dos large. Bref, parce que ça se passe en Colombie-Britannique, puis ça a des répercussions un peu partout. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi la construction du REM, la ligne de montagne qui va être interrompue le 30 mars. Vous voyez, là, il y a tout un... Il y a plein de raisons, finalement, et j'ai demandé à mon collègue Marc Brière de venir nous clarifier tout ça. Bonjour, Marc.
Bonjour, Isabelle.
Alors, fais le don, là. Le petit portrait de la situation, finalement, c'est parce que ce matin, il y a bien des gens qui s'arrachent les cheveux.
Oui, c'est sûr. Ben, ça a amené des problèmes, évidemment, de congestion, puisque le train ne fonctionnant pas, il y avait le service par autobus. Je parle de la ligne EXO 4 Candiac. Les gens devaient se déplacer par autobus à partir des gares Candiac, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine. On nous assurait là, qu'on suivait les départs habituels du train. C'est le même horaire et les temps de trajet pour le centre-ville. On parlait de 25 à 55 minutes. C'est la même chose qu'on nous disait hier, mais avec la tempête, ça a été beaucoup plus long. J'ai remarqué ce matin, il y avait plus d'achalandage au niveau du pont Honoré-Mercier. Et clairement, selon moi, c'est un impact, c'est un dommage collatéral que j'appelle là, quand il y a un problème comme ça qui est important, interruption du train de banlieue. Je veux bien, les autobus, ça peut jamais contenir autant.
Ben non.
Avec un train, c'est impossible.
C'est
puis, ça prend tellement de fréquences pour être capable de faire transiter tout ce beau monde au centre-ville. Donc ça a paru ce matin sur le réseau. Et hier, matin de tempête, il y avait la ligne Candiac, mais il y avait aussi trois lignes dont les départs étaient retardés. Dans un cas, il y a eu annulation de départ, problème mécanique. Alors, ce sont des situations qui sont somme toute habituelles, c'est-à-dire qu'un problème mécanique, ça peut arriver. C'est pas nécessairement à la faute des employés. Il faut être un peu patient en ce sens-là. Mais quand ça se produit un jour de tempête, un jour où il y a une ligne complète qui est arrêtée pour un problème hors du contrôle d'EXO, j'en conviens. Mais une fois que tout ça est rassemblé, ça donne des difficultés aux usagers et ça donne pas le goût de continuer, malheureusement.
Exactement. Puis tu vois, il y a des gens qui m'ont envoyé aussi des avis qu'ils reçoivent par texto quand ils sont dans le train. Je parlais de la ligne Vaudreuil-Hudson qui a été perturbée. Les trains hier, en heure de pointe, annulés.
Hier après-midi, oui.
Inspection d'un viaduc.
Oui.
C'est ça la raison.
Oui. Bien, probablement que le viaduc a été accroché par un véhicule. Ça se produit souvent, ça aussi. Dès qu'un viaduc est touché par un véhicule lourd, on est obligé de tout arrêter pour inspecter. Par souci de sécurité, c'est certain. Mais encore là, j'ai une collègue ici là, qui parlait d'1h45 pour se rendre à la maison. On ne s'attend pas à passer presque 2 heures dans le train.
Exactement. Mais il y a des gens, puis j'ai tout de suite une bonne pensée pour eux aujourd'hui. Ce sont les usagers du train de montagne.
Oui.
Parce que pour eux, ça va être l'enfer. L'enfer devait avoir lieu il n'y a pas longtemps, mais ça a été reporté.
6 janvier, reporté au 30 mars.
Voilà. Et on parle peut-être de report, mais nous verrons.
On entend des choses entre les branches, mais personne ne veut le confirmer.
Mais
il semble qu'il y aurait peut-être un autre. Mais écoutez, on verra. Quand je le saurai, je vous le dirai.
Merci beaucoup, Marc Brière. Francis Miller est responsable du comité des usagers du train de montagne. Merci beaucoup, M. Miller, d'être là. Vous faites partie de ce comité, donc Vendredi, hier, vous avez travaillé de la maison, télétravail. Je exact. Le pousse beaucoup, moi, en ce moment, à cause des problèmes de transport en commun et de train. Vous, vous êtes très inquiet depuis plusieurs mois. Vous avez rencontré le ministre Bonnardel, je crois. Vous avez rencontré Chantal Rouleau. Vous avez rencontré pas mal de monde pour essayer...
En fait, on n'a pas rencontré M. Bonnardel. On veut le rencontrer. On a demandé, lors de notre dernière rencontre avec M. Charrette, de pouvoir rencontrer M. Bonnardel éventuellement.
C'est Benoît Charrette que vous avez rencontré.
Exactement.
Donc, qui est votre député, d'ailleurs,
exactement,
de Montagne?
Député de Montagne.
Est-ce qu'il vous aide?
On l'a dit après la rencontre avec lui. La rencontre a été courtoise. On a été déçus parce qu'on sent pas qu'il nous défend avec la force qu'on aimerait avoir d'un député. Puis finalement, à peu près les usagers, les gens de la région de Montagne, il y en a beaucoup de familles qui dépendent du train. Beaucoup de familles qui ont besoin du train. Beaucoup de gens que c'est les deux parents, en fait, les qui prennent le train, donc qui ont besoin, qui vont être coincés dans 4 heures par jour, comme on disait tantôt. On parlait, faut pas être coincé 2 heures par jour. Mais nous, c'est le quotidien là, qu'on nous impose là, à partir du mois d'avril. Comme je dis souvent, c'est les deux parents qui prennent. Donc, essayer de conjuguer ça avec le fait d'aller récupérer les enfants, aller porter les enfants à la garderie, les ramener le soir. C'est une journée de travail de 8 heures, 4 heures de train par jour. On est à 12 heures par jour. Là.
Faites-nous un peu la genèse de cette histoire, parce que ce que vivent les gens depuis hier, vous allez le vivre éventuellement, puis même si c'est éventuellement reporté, si ça reste reporté, là, éventuellement, il va falloir le faire. Il y a une question du tunnel là, qu'il faut faire pour faire passer le fameux REM. Ouais. C'est ça un peu qui fait que, bon, ce qu'on va fermé pour faire des travaux du REM, vous ne pourrez plus l'utiliser comme train. Il va falloir faire autre chose, donc prendre probablement la voiture.
Mais en fait, il y a des mesures de mitigation qui sont mises en place par le gouvernement. Nous, ce qu'on demande, c'est des meilleures mesures de mitigation qui n'amènent pas des temps de transport, des temps de trajet de 4 heures par jour, parce qu'en ce moment, c'est ce qui nous est proposé. Pour les gens du nord de la ligne, là, les gens de Laval et de Deux-Montagnes, donc on parle d'un trajet qui va être composé de minimalement 3 moins de transport pour remplacer la composante de train. Donc, train, autobus, métro, train jusqu'à Bois-Franc. On débarque à Bois-Franc, on nous embarque dans des navettes d'autobus, donc 15 navettes d'autobus pour les 1000 usagers.
Oh, mon Dieu.
Là, les 1000 personnes qui débarquent, là, le gouvernement nous dit, nous promet qu'ils vont être capables pour rencontrer les temps de 4 heures. Là, je dis souvent que c'est 4 heures dans le meilleur des cas.
C'est ça.
Pour rencontrer 4 heures par jour, il faut qu'ils réussissent à rentrer dans leur objectif de nous transférer du train aux autobus 1000 usagers en 10 minutes. Fait que nous, on a des gros doutes que juste là, que ça va tenir. Donc, évidemment, en hiver, des trucs comme ça, tu sais, les gens, ils vont se précipiter pour essayer de pogner ça. Donc, après ça, pour continuer la séquence, une fois qu'on a réussi à trouver notre place dans un autobus, on fait un bout d'autobus de Bois-Franc jusqu'à la station de métro Côte-Vertu. À partir de là, évidemment, on débarque de l'autobus, on s'en va dans le métro, puis là, on continue notre run, dans le fond, jusqu'au centre-ville pour la plupart des usagers, là, pour finalement arriver au centre-ville dans des temps, selon les ajouts qui nous sont imposés, d'environ 2 heures dans le meilleur des cas, comme je dis, parce qu'évidemment, là, on a déjà des trajets porte-à-porte d'à peu près 1h15. Donc, si on ajoute le 35 minutes qui est prévu par le gouvernement, ça nous amène à peu près 1h50, 1h55. Le soir, le problème est plus grand parce qu'évidemment, le soir, le train est aux 30 minutes puis est à la fin de la séquence. Donc, il va falloir, avant pour se rendre au train, évidemment, prendre le métro et l'autobus. Donc, aussitôt qu'il va y avoir un petit pépin, c'est là où le stress et l'anxiété vont embarquer parce que, moi, je l'ai dit, j'ai fait un trajet semblable à ça dans les années précédentes. Puis, c'est très, très, très... Tu sais jamais, là, tu cours toujours parce que tu as peur de manquer ton train, finalement. Puis là, si tu le manques, c'est une demi-heure de plus.
C'est un stress, c'est certain. Et comme vous dites, à la moindre panne du métro, là, c'est fini. Là. Vous ne serez pas capable d'arriver à temps pour la mesure à l'autre bout. Mais un commentaire que j'entends souvent, puis juste rapidement, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui mentionnent le fait que après l'arrêt de service, vous allez avoir un REM, une fréquence, un service supposément extraordinaire pour le centre-ville. Il y a bien des gens, puis je me fais un peu l'avocat du diable, mais oui, il y a bien des gens qui me disent ça à moi, à la circulation, qui me disent, ben c'est un coup à donner pour ces gens-là, mais après, ils vont avoir un super service.
Mais ça va durer combien de temps?
Ben, c'est 4 ans.
C'est ça.
C'est 4 ans de travaux?
Un coup à donner là, de 2-3 semaines, 2-3 mois, je pense que les gens...
Non, mais c'est un facteur de déménagement.
Absolument,
là.
Et il y a des gens qui le font.
Oui, exact. Les gens, en ce moment, c'est l'anxiété, parce que je pense que la CAQ a été élue en nous promettant qu'il y aurait des meilleures mesures qui seraient mises en place. Ils n'étaient pas pour le plan qui était proposé par les libéraux. Puis au final, ils se sont virés de bord puis ils n'ont pas livré beaucoup plus. Ils ont livré rien qui nous permet des meilleurs temps, en fait, en heure de pointe. Donc, c'est sûr que les gens, en ce moment, jusqu'à l'automne dernier, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des annonces qui soient faites qui permettent des meilleurs temps. Des voies réservées, des trucs comme ça qui avaient été promis, qui avaient été dit lors d'entrevues précédentes. Donc, je pense que là, les gens, ils se sont rendus compte à partir de l'automne, c'est là que le monde a fait comme, ben voyons donc, ça se peut pas, ils peuvent pas nous imposer ça. C'est là que nous, on a pris forme, le comité, ben en tout cas, il y avait déjà un comité au préalable, mais qu'on a, on a accentué notre pression, justement, parce que on n'a pas le choix, là, les usagers, là, dans le train, là. Nous, on invite les ministres, là, à venir prendre le train, parler avec les usagers, parce que nous, là, moi, quand j'étais assis dans le train, là, genre, tout le monde parle de ça. Les gens se parlent entre eux autres. Personne sait ce qu'ils vont faire exactement. Tout le monde dit, je sais pas ce que je vais faire. Puis, pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, il y a beaucoup de gens qui, finalement, ils se disent, plutôt que me taper là, les trois moyens de transport, je vais prendre mon auto pour essayer de me rendre au métro, essayer de me rendre à Montmorency, essayer de me rapprocher le plus possible pour éviter trois moyens de transport puis éviter l'incertitude que ça compose.
Là, au quotidien, on parle de plus de 15 000 personnes qui voyagent sur les trains de la ligne de Deux-Montagnes, plus 3 000 aussi sur la ligne de Mascouche. Ça fait 18 000 personnes.
Exact.
Ça en fait du monde là, que ça touche.
Ils vont remettre tout ça dans le métro. Là.
Exactement.
Exact.
Ouais. Eh, mon Dieu, ben oui. imagine.
Au métro à Côte-Vertu, puis ça fait partie des problèmes qu'on a aussi, c'est que justement, là, à Côte-Vertu, là, encore une fois, pour respecter les 15 minutes de transfert qu'ils nous ont promis, il y a juste 5 minutes de transfert à Côte-Vertu entre les autobus puis le métro. Mais là, moi, je l'ai déjà essayé, là, puis je me suis timé, je me suis filmé dans des bonnes conditions, passer de l'autobus à descendre au métro. C'est long. Fait qu'imaginez, là, quand il y a énormément de gens en heure de pointe avec les étudiants qui sont à Côte-Vertu, il y a un bouchon, il y a un goulot d'étranglement qui se fait en haut de la station. Tu sais, c'est pénible juste rentrer dans la station Côte-Vertu. Là, donc, c'est sûr que ça va être plus que 5 minutes qui nous est promis. Fait que, tu sais, comme je dis souvent, là, c'est 4 heures dans le meilleur des cas. Puis nous, on a vraiment la crainte que ça soit plus 4 heures et demie, voire 5 heures par jour.
Et ça, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas prendre plus de temps pour te rendre à ton travail que le temps que tu passes au travail. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans.
Et logiquement, ça devrait être plus rapide que l'auto.
Oui.
Et c'est pas le cas.
Non, pas du tout. Alors, on peut comprendre que pendant les travaux, on donne un effort. Oui. Bon, on vit tout ça depuis plusieurs années avec tout ce qui se passe sur le réseau, les infrastructures et tout. Mais il y a un moment donné, il faut que ça finisse aussi. Ça ne peut pas durer 4 ans. Là. Ça ne peut pas. On va s'arrêter ici. On va donner la parole à des gens qui, depuis hier, peut-être vous vivez une situation qui s'apparente à ce qui pend au nez des gens, là, justement, dont on parle, les gens de la ligne de montagne. Si vous êtes également un des usagers de cette ligne, bien sûr, vous pouvez nous joindre et nous parler de vos inquiétudes. On va vous parler également d'un sondage qui a été fait avec des résultats incroyables sur l'impact de ce genre de situation, ce genre de problème de transport en commun. Ça a un impact direct sur la santé mentale des gens. On en parle beaucoup, de plus en plus de santé mentale. On fait tout un plat avec ça, puis avec raison. Mais regardez, ça, là, ce genre de problème qu'on vit là, ces jours-ci, ça aussi, ça a un impact, puis beaucoup plus grave qu'on le pense, sur la santé des gens. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850 pour me joindre et vous faites de l'extérieur le 1-866-790-9850. Pour nous joindre, vous pouvez faire dans la grande région de Montréal le 514-790-9850. Je vous demande ce matin si vous êtes dépendant du transport en commun, comme tous ces gens là qui depuis 2 jours, mais on pourrait même dire depuis plus largement que ça, parce que c'est une situation récurrente, hein, Marc,
oui,
on le sait.
Tout à fait, oui.
C'est pas mal tous tes matins, ça.
Ben, ça arrive souvent, oui. Il y a souvent un problème, faut le dire. Et bon, même s'il y a eu amélioration, au moins pour l'hiver, là, parce qu'à un certain moment, là, c'était vraiment pénible. Il y a des problèmes d'aiguillage, des problèmes de train, des portes qui gelaient. Ça finit ne sait plus. Je dois dire qu'il y a amélioration, mais ça se produit encore trop souvent à mon goût.
Voilà. Puis on a avec nous quelqu'un qui est sur le comité des usagers du train de montagne. C'est Francis Miller qui habite à Saint-Eustache, qui est bien inquiet de ce qui va se passer à partir du moment où les travaux du REM vont commencer. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a le tunnel sous le Mont-Royal qui va fermer le 30 mars prochain. Ça devait être le 6 janvier, finalement, c'est le 30 mars. Peut-être que ça pourrait être reporté. On le sait pas, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, c'est beaucoup de mots pour vous, Francis. Puis je sais que vous avez fait un sondage avec des chiffres, des données incroyables. Il y a 94 % des gens là, qui disent que les mesures offertes sont insuffisantes, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'est surtout au niveau de la santé mentale que ça inquiète. Puis même vous l'avez vécu. Vous nous disiez tout à l'heure, moi, j'ai fait un trajet équivalent à une certaine époque. Puis vous avez frôlé le burn-out, là.
Oui, exact. Moi, quelques années, je travaillais, dans le fond, à Ville-Mont-Royal. Donc, je devais débarquer à Bois-Franc. Donc, vraiment l'équivalent là, des mesures de compensatoire. Donc, je débarquais à Bois-Franc, je prenais un autobus pour me rendre jusqu'au métro Côte-Vertu. Et à partir du métro Côte-Vertu, je me rendais à mon travail. J'avais juste 2 stations à faire, contrairement à me rendre jusqu'à Bonaventure. Donc, c'était le même trajet, mais en plus court. Puis, tu sais, un peu comme tout le monde. En tout cas, moi, je n'étais pas sensibilisé aux facteurs de fragilisation de santé mentale. J'ai commencé ce travail-là. J'ai dit, ça, c'est 1h05, 1h10. Ça va bien, puis c'est l'été, puis il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, la lourdeur, comme je dis, à toutes les soirs, de passer proche de manquer mon train, ou manquer mon train parce que sur Côte-Vertu, il y avait un problème, ou dans le métro, comme M. Briand disait, un petit pépin dans le métro. Donc, tout le temps vérifier sa montre, c'est comme l'équivalent là, de faire un transfert. Quelqu'un qui fait une correspondance en avion, là, le stress que ça apporte, là, être sûr de ne pas être.
Toujours en hypervigilance, dans le fond, là, c'est ça, c'est un stress incroyable.
Fait que c'est ça, mais au quotidien. Donc, je me suis retrouvé, après quelques mois de ce travail-là, à vraiment. Détester mon quotidien, en fait. Puis là, quand on me posait des questions un peu sur qu'est-ce qui allait pas à la maison, en fait, là, j'ai commencé à regarder ça, puis on s'est rendu compte que finalement, c'était vraiment les temps de trajet. Puis je me suis rabattu sur la voiture pour me rendre. J'étais à section nord de la ville, donc c'était pensable pour moi. Donc, je me suis rabattu. Ça faisait 15 ans que je prenais les transports en commun avec joie. Tu sais, le train, j'adorais prendre le train. On était des fiers utilisateurs du train pour les volets environnementaux, les volets de tout ce que ça apporte de bon. Mais force est d'admettre que je n'étais plus capable. Puis l'été, je préférais prendre mon vélo pour faire les 27 km qui me séparaient de Ville-Mont-Royal jusqu'à Saint-Eustache, plutôt que de me taper la séquence train, autobus, métro
clairement.
Tous les jours.
Il y a deux gars ce matin, c'est dans le journal, deux intrépides de Longueuil qui traversent le fleuve à la course au lieu de prendre le métro ou de prendre le pont.
Ben là, faites pas ça.
Vas-y pas en motoneige.
Même à pied, je suis pas sûr que traverse. Mais en tout cas, c'est spécial
non,
un
c'est
peu.
C'est dangereux.
Ouais, mais les pistes multi sur le pont Jacques-Cartier, en tout cas, quand je suis passé hier matin, on était en train de les déneiger pendant la tempête. Donc, je pense qu'il y a possibilité d'y aller. Je sais que c'est pas tout le temps. Il y a des moments où c'est fermé parce que quand la neige ou la glace se décroche de la structure, ça devient très dangereux pour ça qu'on ferme.
J'ai Ginette qui m'écrit le train de 17h45, train de banlieue de Lucien Lallier vers Saint-Jérôme. Elle habite à Sainte-Thérèse. Oui. Elle dit on nous a abandonné à Montréal-Ouest. Après deux arrêts, Vendôme et Montréal-Ouest, bris mécanique. On a invité les passagers à prendre le transport local, l'autobus 105, pour retourner au métro Vendôme. Il était rendu 19h15.
Oui.
Imagine,
deux heures. Non, j'entends des histoires comme ça souvent, Isabelle.
Finalement, elle dit que c'est un bon Samaritain qui l'a invité, ainsi que deux autres passagers, à partager le transport Uber qu'il avait commandé pour se rendre à Rosemère.
Écoute. Alors, quand t'es rendu là, une collègue
elle
ici...
Elle dit « Merci, M. Coutu! » Alors que M. Coutu qui nous écoute, c'est ça.
Bon,
elle dit qu'elle est arrivée, écoute, trois ans plus tard, elle est arrivée à la maison.
C'est fou, hein? C'est fou. Une collègue ici qui me disait à un moment donné, le train, comme ça s'est arrêté, elle est allée au métro. Le métro fonctionnait pas non plus. Le prêt taxi, ça a coûté 75.
Oh,
ça, c'est le retour à la maison.
Ouais. Et dans votre sondage, Francis Miller, qui a été fait auprès de plus de 300 personnes là, de votre coin, il y en a 80% à peu près qui estiment que leur vie professionnelle ou scolaire va être grandement affectée. 77% qui estiment que leur vie familiale va être grandement affectée par, évidemment, la fermeture du service de train de montagne. 76% estiment que leur santé mentale et celle des membres de leur famille sera grandement affectée. C'est important, là?
Ben oui, tout à fait. Faut comprendre là, qu'il y a des trajets là, de 4 heures par jour, là, juste en termes de temps. Là, 12, ça veut dire avec une journée de 8 heures par jour, on est à 12 heures par jour. Donc, si on va porter notre enfant à la garderie à 7 heures le matin ou au service de garde à 7 heures le matin pour son début de l'école, on ne peut pas revenir à la maison avant 7 heures le soir, dans le meilleur des cas. Les services de garde sont fermés à 7 heures. Ouais. Tu sais, comment les gens vont gérer ça? L'aide aux devoirs, comment les gens vont pouvoir être là pour leur enfant?
Vous en avez deux enfants, c'est ça, qui utilisent les
deux
le train
enfants,
pour aller à l'école?
Oui, exact.
Ouais.
Exact.
Puis, on peut-tu dire des fois, je sais pas les vôtres, là, mais des fois, tu arrives 5 minutes, ton jeune arrive 5 minutes, 10 minutes en retard au cégep à cause de... Moi, ça m'arrive des fois, là, on la reconduit, ou des fois, c'est l'autobus qui se rend pas, pas à temps, parce que ça, c'est une autre affaire, on pourra en parler longuement, ça prendra une autre demi-heure. C'est pas tous les profs qui ont une compréhension du problème, de l'enjeu transport et qui ont la patience. Sont assez barrés.
Il y a des contraintes. Nous autres, on l'a demandé. On a dit, est-ce qu'il y a moyen de prendre... Quand on a rencontré les gens du gouvernement, on a parlé de mesures sociales. On se le demande pourquoi qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment des mesures qui sont mises en place pour nos étudiants. C'est le seul accès à l'université. Là. Nos étudiants de notre région prennent tous le train pour se rendre à l'université. Donc, parce que c'est faisable, ça se fait, tu sais, je veux dire, ça prend une heure, à peu près 3 heures par jour, mais là, on va passer facilement à 4 heures par jour.
Allez-vous vous organiser? Êtes-vous en train de dire, OK, on va se faire un pool de conducteurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque là, visiblement, le gouvernement bouge pas plus qu'il faut, là.
Ouais.
Vous propose des mesures que vous considérez insuffisantes.
Non viables,
Vous allez faire quoi?
Mais dans le fond, c'est sûr que les gens, là, si on prend le train aujourd'hui, là, les gens se parlent de mesures, ils se parlent de trouver des façons de prendre. Puis tu sais, moi, c'est drôle parce que ce qu'on entend vraiment, c'est « Écoute, moi, je vais essayer de prendre mon auto pour me rendre le plus loin possible. » Il y a des étudiants en ce moment, là, tu sais, moi, je les ai, mon fils, il va probablement, il va déménager chez ma mère qui habite à Ville-la-Salle, puis au lieu de vivre chez eux dans sa avec sa famille, mais il va au moins éviter ça, puis il va revenir la fin de semaine. Mais c'est certainement pas ce qu'on souhaite. Là. Ma mère, elle a 80 ans, elle est très gentille de l'accommoder, mais tu sais, c'est pas la vie parfaite pour un étudiant. C'est pas le contexte idéal, en fait. Nous, on aimerait être là pour faire notre job de parent. Moi, quand j'ai déménagé à Deux-Montagnes, à Saint-Eustache, après ça, mon engagement envers mes enfants, c'était d'être là pour eux, les supporter dans leur cheminement scolaire jusqu'à temps qu'ils deviennent des professionnels. Puis là, on m'enlève ce droit-là. Puis je sais pas, on est pas le seul, on est 15 000 de même. Là, qu'on veut être là pour nos enfants. T'sais, on regardait, on se rappellera que Mme Birubé, la présidente du conseil d'administration d'Exo, avait dit, ben engagez-vous des gens pour faire des petits plats puis tout ça. T'sais, elle l'avait dit d'une façon très maladroite là, au mois de novembre. Dans le fond, trouvez-vous une façon de vous débrouiller. Mais t'sais, quand on est à proposer des suggestions aussi absurdes, c'est parce que ce qui est proposé ne fonctionne pas. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le gouvernement, justement, il revise le tir. Puis, à ce moment-là, il n'y a rien qui presse d'arrêter le service de train. Là. On a parlé d'un, il y a eu un rapport déjà. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire les choses de la bonne façon pour ne pas fragiliser, pour ne pas, dans le fond, sacrifier 15 000 usagers, voire 18 000 usagers qui vont se retrouver à être obligés de se bricoler une vie puis essayer de trouver une façon d'arriver à leur fin. Mais, tu sais, l'anxiété, le stress, les problèmes que ça va apporter, c'est invivable pour les gens. Là.
Surtout, j'ai Frédéric qui m'écrit, il dit « Arrêtez de dire que le REM sera un train extraordinaire pour Deux-Montagnes. » Premièrement, c'est pas un train, c'est un métro qu'il dit, Frédéric.
Mais
alors le métro Deux-Montagnes, il y aura moins de place, il dit, assise, et debout, plus de monde au pied carré. Il dit « Moi, j'ai des problèmes de dos, je peux pas rester debout pendant 50 minutes, donc je vais devoir attendre le prochain métro. On pourra pas travailler non plus dans le train à cause de la configuration.
Ouais. » Ouais.
C'est pas tout le monde qui est d'accord non plus.
Et quand
plus,
je mentionnais hein, ça, Marc, c'était simplement que je relayais les commentaires que je reçois parce que c'est ce que j'entends de gens qui sont pas de la région, qui voient ça de l'extérieur, qui vivront pas les mesures, qui vivront pas les problèmes, qui vivent pas les problèmes psychologiques que ça amène, les difficultés supplémentaires à la vie qui est déjà pas évidente. Et vous savez, exact. Tout est fait. Il y a des heures pour tout. On a une société qui est faite, en gros, pour du 9 à 5. Ça tend à vouloir changer, c'est tant mieux, mais c'est fait comme ça. Les garderies, quand on va chercher les enfants, il y a des amendes à la minute. Ouais. Si t'es en retard, une minute, deux minutes, cinq minutes, c'est tant, dépendamment des endroits. Faut être à l'heure, faut arriver. Ouais. Et là, t'es obligé de te fier sur un système qui, à la moindre petite anicroche, va mal fonctionner, va te mettre en retard. C'est pas évident. Et le recours à la voiture, c'est déjà commencé. Moi, je peux te le dire. Je le vois chaque matin. La 13, c'est plus congestionné qu'avant. Ça a changé depuis quelques mois. C'est évident pour moi.
Ouais. Fait que c'est sûr qu'on est dépendant du transport en commun.
Ben oui,
on nous dit, prenez-le, vous allez voir. Là. Mais avec ce qui se passe, là,
non,
là, ça ne convaincra personne. Là.
C'est pas la façon de faire.
Non.
Non. Puis, tu sais, nous, les gens avaient fait ces choix-là il y a 15. Quand notre communauté, en fait, s'est bâtie. On regarde le nombre d'habitants à Sainte-Marthe, ça l'a doublé depuis 92 parce que les gens, justement, adhéraient à ce service-là qui était fiable. Donc, les vies des gens, ils sont vraiment rodés, sont vraiment synchronisés avec les délais de train. Nous, on a demandé justement au gouvernement, allez-vous trouver une façon d'augmenter les heures des services de garde, trouver une façon que les services de garde, il n'y a pas des pénalités. Là. Il faut trouver une façon pour que les gens, quand ils vont arriver en retard à cause des délais de transport du REM, mais qu'ils ne soient pas pénalisés constamment. Là. On ne peut pas être pénalisé pendant 4 ans. Là, ça.
C'est quoi la prochaine étape pour vous, là, le comité des usagers du train de Montagne? Là?
Ben,
vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous demandez, le ministre Bonnardel, vous voulez le rencontrer?
Oui, on a demandé à M. Charrette de rencontrer M. Bonnardel et M. Maquital, qui est le PDG de la CDPQ Infra, parce que ce qu'on nous dit quand on rencontre M. Charrette, c'est qu'il y aurait une non-flexibilité de la CDPQ, de la Caisse de dépôt, dans le fond, à reviser les échéanciers pour permettre la mise en place de meilleures mesures. Donc, nous, quand on entend ça, on dit, bon, parfait, on veut parler aux deux intervenants ensemble pour pas qu'ils se relancent la balle d'un bord puis de l'autre. Parlons au ministère des Transports, parlons au PDG de la Caisse de dépôt, puis essayons de voir pourquoi là, vous refusez, dans le fond, de mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que nous, on va pouvoir continuer à vivre nos vies, avoir des carrières. Là, pourquoi je serais obligé de déménager ou de démissionner de mon travail pour lequel j'ai travaillé fort pendant 20 ans pour finalement accommoder un projet qui va s'en venir à un moment donné? Comme on a dit, nous, les gens de Montagne, là, notre service fonctionnait bien. On n'a pas le mandé, on avait un service de train qui était incroyable. C'est pour ça qu'il y avait 15 000 usagers, parce que le service fonctionnait bien, il était fiable. Donc, on comprend là, que, oui, il va y avoir un REM qui va arriver. Comme on a dit, c'est pas pour nous, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée au REM. Mais pendant les travaux du REM, il faut qu'on puisse continuer à nous amener à nos travails dans des durées qui sont raisonnables. On parle ici de possiblement mettre en place des voies réservées qui vont nous amener, tu sais, dans le fond, plus proche, au centre-ville. C'est pas impensable là, d'avoir... c'est du bitume là, à mettre sur la 13 pour permettre à des autobus, des navettes d'autobus à nous apporter à nos destinations. C'est faisable. La CAQ avait promis ça avant d'être élu. Il avait dit que c'était faisable. Il n'était pas content de ce que les libéraux avaient promis. Mais là, on demande ça. Là. On dit, gardez, là, reportez les travaux, reportez la fermeture du tunnel tant que ça sera pas mis en place. Tout le reste, là, sinon, là, c'est insensé de faire ça. C'est complètement irresponsable de jeter les gens dans des trois moyens de transport puis des temps imprévisibles.
Mais s'il ne bouge pas, le gouvernement?
On va continuer à mettre de la pression. La semaine passée, on est allé à l'Assemblée nationale. Ouais. Il y a une pétition qui a été marrainée par Ruba Gazal de Québec solidaire. On va continuer à... Je veux dire, en ce moment-là, on a ressenti, plus que l'échéance arrivée au mois de décembre, là, il y avait beaucoup de pression parce que nos gens, jusque-là, ils s'en rendaient pas compte. Ils pensaient qu'il y aurait de quoi de nouveau d'annoncer. Plus que le monde se plongeait dans leur réalité, plus que le monde se réveillait dans le fond. Là, les gens sont bien au fil de ce qui les attend. Là. Je pense qu'entre autres, on demandait... Nous, comme comité, on a sensibilisé les gens sur le fait que ce qui leur attendait, parce que ça n'avait pas été bien communiqué non plus. Les gens, ils se disaient, ben, ça va marcher, tu sais. Mais là, les gens comprennent. Là. Fait que là, c'est sûr qu'on va avoir on va continuer à mettre la pression, parce que en ce moment, là, ce qui est proposé, c'est indéfendable. Fait que ceux qui vont vouloir essayer de défendre ça, là, ils vont se retrouver à défendre l'indéfendable. Puis à un moment donné, d'un point de vue de ce qu'ils vont être en mesure de faire, ils n'auront pas le choix là, de reviser, parce que sinon, ça va être le bordel. Ça va être, je veux dire, comme on disait tantôt, sur la 13. Imaginez, là, c'est à partir du mois d'avril, là, il y a 10 000 usagers de plus sur la 13.
Hey,
c'est pas juste les gens de Montagne là, que ça va affecter. Là. Ça va être l'ensemble des gens de la Couronne-Nord qui ne seront pas contents, parce que là, leur temps de transport pour se rendre au travail, ça va être doublé. Là. Fait que, il faut penser en fonction de ça. Là. Puis encore là, notre député local, c'est le ministre de l'Environnement, mais c'est pas bon pour les gaz à effet de serre, ça non plus. Là.
Merci beaucoup, Francis Miller. On garde contact, bien sûr. Bon courage à venir. Vous allez en avoir besoin. Francis Miller, du comité des usagers du train de Deux-Montagnes, du métro de Deux-Montagnes.
Merci
beaucoup, Marc Brière.
Ça fait plaisir. Hey, si on veut amener le monde dans le train de banlieue, là, arrêtons de créer des structures, concentrons-nous sur l'expérience client puis offrons de la fréquence. Juste
Et
ça.
Voilà. Tout est là.
Facile.
Merci beaucoup.
Faut juste le faire.
Facile de même, c'est ça. Faut juste la volonté pour le faire. Merci beaucoup à tous les deux. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vous propose une histoire exclusive. Restez à l'écoute.